Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en ce moment à nous suivre sur www.radioocapi.net pour ceux qui sont à l'étranger et sur la fréquence FM pour vous qui nous suivez au pays, dans toutes les provinces de la RDC. Dans ce studio avec moi, Albert Kisonga Mazakala, éditeur du journal Demain le Congo et ancien ambassadeur de la RDC en Belgique. Monsieur Albert Kisonga, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous aussi, madame.
Avec vous, dans notre entretien, nous allons vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment. Ils sont très nombreux à pouvoir nous suivre. Comme je l'ai dit, vous êtes éditeur du journal de Mali Congo, mais aussi ancien ambassadeur de la RDC en Belgique. Vous nous parlerez de votre passage à l'ambassade de la RDC en Belgique et le pourquoi de votre départ, monsieur Albert Kisonga. Mais avant, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Dites-nous, vous êtes né où et quand?
Je suis né à Costermansville à cette époque-là. C'est le nom que portait Bukavu en 1943.
Et c'est à Bukavu, vous avez grandi, vous avez fait vos études primaires et secondaires?
Non, pas tout à fait. J'en ai fait une partie là-bas, mais j'ai été envoyé par mon père, qui était d'origine du Bas-Congo, à l'âge de 7 ans, pour m'imprégner de la culture du terroir. Donc ça fait que j'ai été partagé entre le Kivu
et le Bas-Congo.
Voilà, tout à fait.
Et au Bas-Congo, vous étiez avec votre père?
Non.
Il vous a envoyé chez vos tantes?
Dans sa famille, en tout cas, oui.
Donc vous avez grandi un peu loin des parents?
Oui, oui, je suis resté assez longtemps loin de mes parents, oui.
Est-ce que c'est facile de vivre loin de ses parents?
Ce n'est vraiment pas facile, surtout que dans le cas d'espèce, la différence des cultures était assez saisissante, oui.
Donc à l'âge de 7 ans, vous allez au Bas-Congo, vous n'êtes plus rentré à Bukavu?
Si, je suis rentré 6 ans plus tard à Bukavu, parce qu'entre temps mon père avait immigré à Kinshasa, et bon, il n'y s'y est pas tellement plu, alors il est reparti, alors toute la famille avec lui.
Vous avez fait quel genre d'études?
J'ai fait des humanités latines.
C'était à la mode, hein, apparemment, à cette époque, à votre époque, parce que la plupart des gens de votre génération, c'est les humanités gréco-latines.
Oui, parce que les études modernes sont venues plus tard. Oui, et le gréco-latin était, disons, un parcours qui était principalement enseigné dans les séminaires. Ça fait que beaucoup de gens qui venaient des séminaires avaient été formés dans ces créneaux-là. Et plus tard, bon, sont venues les études modernes, les maths, la comptabilité et consorts.
Vous êtes associé par le séminaire?
Non, je n'ai pas été au séminaire.
Quel est le souvenir que vous allez plus marquer pendant votre enfance? C'est à Bukavu, au Bas-Congo, où il y a eu beaucoup de choses qui vous ont marqué?
Je crois plutôt à Bukavu, parce que, d'abord, il faut que je vous dise ceci, que j'ai été habitué à changer radicalement de décor. Parce que j'ai été scolarisé dès le début chez les catholiques, mais il y a eu un incident, j'ai été frappé par un prêtre, et mon père n'a pas toléré. À cette époque-là, on ne pouvait pas se plaindre contre un blanc. Donc, il m'a changé d'école, il m'a amené chez les pentecôtistes, qui étaient des Suédois. Et là, c'était un monde tout à fait différent. Les institutrices étaient blanches, et ils n'étaient pas ségrégationnistes. Donc, il n'y avait aucune appréhension envers les Noirs. Ils vous prenaient dans les bras, vous mangez ensemble avec eux. Donc c'était un monde vraiment tout à fait différent. Mais seulement l'enseignement était entièrement swahili, c'est ça le problème.
Des Suédois qui donnaient cours en swahili?
Oui, tout à fait, oui.
Ils ont appris la langue sur place?
Absolument, oui.
Vous avez 11 enfants, monsieur Albert Kisonga?
J'ai 9 enfants en propre et j'ai 5 adoptifs. Ça fait que sous mon toit, il y a 14 personnes qui ont grandi.
Vous êtes marié?
Ah oui, naturellement.
Alors, après vos études gréco-latines, vous venez à Kinshasa pour l'université?
Non, je vais à Kinshasa pour le gouvernement. Parce que j'ai travaillé avec le ministre de l'Information, de Patrice Lumumba, Anicet Kachamoura.
Kachamoura, oui.
Oui, qui m'a recruté en 60. Donc,
et vous a, comment vous vous êtes rencontrés? Vous a recruté, comment vous vous connaissez?
Oui, nous sommes tous des Bukaviens. nous avions, c'était nos aînés, nous avions milité dans le même parti. Alors, quand on a formé le gouvernement, il m'a fait venir. Donc nous sommes venus dans le dernier vol de la Sabena le 29 juin 60.
Vous êtes retrouvé à Kinshasa?
Oui.
Et vous avez commencé à travailler avec lui dans le gouvernement Lumumba?
Tout de suite, oui.
Et c'est grâce à lui que vous avez approché Patrice Emery Lumumba?
Absolument, parce qu'ils étaient presque voisins. Donc quotidiennement, Lumumba venait chez lui, ou bien lui, il allait chez Lumumba. Et voilà, donc on avait une familiarité de voisinage, là.
Et Lumumba, c'était quel genre de personne, hein?
Fascinante.
C'est-à-dire?
C'était quelqu'un...
Qu'est-ce qui vous fascinait chez lui?
C'est quelqu'un qui dégageait un charisme presque surnaturel. Il avait des convictions très fortes. C'était un beau parleur, quoique il avait un accent du terroir assez marqué. Mais c'était un patriote absolument convaincu, absolument engagé.
C'est une personne facilement abordable, qu'on pouvait approcher facilement.
Absolument, il allait chez n'importe qui. Il mangeait n'importe où. Et dans la vision des choses qu'il avait, au centre, c'était l'intérêt général, le peuple congolais et l'homme noir.
Et vous avez côtoyé presque tous les leaders, hein, qui se sont succédés à la tête de la RDC. Vous avez aussi eu des liens avec Kassavubu parce qu'il était ami à votre père.
Pas amis, mais ils se sont connus. Oui. Le président Kassavubu, quand ils sont revenus de la table ronde, au cours de la tournée du collège exécutif général, a fait l'honneur à mon père de lui rendre visite chez lui. Et voilà, il s'est établi des relations suivies avec lui et qui m'ont été utiles par la suite.
Comment ça, racontez-nous.
Mais je vais vous dire parce que en 1962, il y a, comme cela se produit toujours dans ce pays, quelqu'un qui va m'accuser de terrorisme en 62. Tout simplement parce que bon, je venais de Chine, de Moscou, alors que l'attaché militaire de l'ambassade américaine venait d'être assassiné ici, dans des circonstances non élucidées. Alors, on dit, bon, ce type qui vient de Moscou, ça doit être lui. Donc la chasse à l'homme contre moi s'organise. Bon, je me cache pendant 2 mois, mais finalement, ils vont arrêter mon père à Bukavu. Alors, je vais me
dire... Mais vous êtes retrouvé à Moscou dans quel cadre?
Oh, ben, je voyageais, j'étais dans la presse aussi. Mm-hmm. Oui, j'étais dans le mouvement de jeunesse, donc voilà. Alors, j'ai mes livres, je téléphone au Premier ministre, à Abdullah d'abord. Je lui raconte mon histoire, et puis j'ai mes livres et je me constitue prisonnier. Bon, c'était dans des circonstances extrêmement périlleuses, parce qu'à cette époque-là, les gens mouraient comme des mouches. Mais ce que mes accusateurs avaient oublié, c'est qu'un officier américain, surtout d'attaché militaire, il ne meurt pas comme ça. Il y a une commission du FBI qui est venue ici, qui a enquêté. On a découvert qu'il avait été victime de notre Américain de l'ambassade pour question de jalousie. Bon, et voilà comment je finirai par être libéré.
Grâce à l'intervention du président Kassavubu?
Absolument, absolument. Parce que là, mon père le bombardait de télégrammes tous les jours. Alors finalement, il dit, mais ces garçons, maintenant que... On dit bien que ce n'est pas lui qui a la base de ça, mais pourquoi on le garde? Voilà comment je vais sortir de prison.
Qui avait donné l'ordre pour qu'on puisse vous arrêter?
C'était la sûreté, hein, sur laquelle trônait à l'époque Victor Nendaka. Et en général, le mobiste n'avait pas bonne presse, donc beaucoup de nos camarades ont laissé leur vie.
Quoi. Après l'assassinat de Lumumba, vous n'avez pas eu peur pour votre vie, vous, Lumumbiste, vous qui étiez assez proche de lui?
Ah oui, certainement, certainement. Je vous dis que beaucoup de nos camarades ont payé de leur vie leur attachement aux idées de Lumumba. Beaucoup, beaucoup. Il y a même des mémoires d'hommes comme ça, j'ai pu vous en citer des dizaines, quoi. On a eu peur, on s'est caché, et puis on est parti en exil. Voilà.
Vous êtes parti en exil où?
À cette époque, bon, en Tanzanie, au Ghana, en Égypte, et voilà.
Et pourquoi vous êtes revenu? Qu'est-ce qui vous a fait revenir?
Nous sommes revenus en 71 parce que sous la pression de divers événements, Mobutu avait décrété l'amnistie, une amnistie générale pour tous les délits politiques. Donc là, ce moment-là, nous étions obligés de revenir. Moi, à cette époque-là, j'étais rédacteur en chef du journal du gouvernement au Burundi. Je ne devais pas, enfin matériellement, je n'avais aucune raison de revenir parce que j'avais un emploi stable qui était bien rémunéré.
Mais comment vous, Congolais, vous vous retrouvez comme éditeur du journal du gouvernement burundais?
Pas éditeur, rédacteur.
Rédacteur en chef.
Oui, oui.
Vous connaissiez bien les réalités burundaises pour qu'on vous nomme rédacteur en chef?
C'est un pays que je connaissais, que je connais. Et puis j'étais sur place et j'avais répondu à un concours de recrutement.
Ah d'accord.
Oui, oui. Et j'ai été reçu, donc engagé.
Donc, mais, en 71, vous revenez?
Oui, je reviens au pays, mais je reviens avec la presse à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quelques temps après être revenu, il y a eu un incident qui a impliqué un de nos confrères, Clément Mabiala. Bon, il y a le journal Minute, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un journal de l'extrême droite française, avait publié un commentaire qui était très injurieux pour le président Mobutu. Maintenant, Mabiala, pour faire la critique de ce papier, il avait cru bon de le reprendre pour que les lecteurs puissent juger, quoi.
Ça a été mal pris par le président Mobutu.
Ah là là là, mais si vraiment ce garçon, s'il n'a pas perdu la vie à ce moment-là, c'était grâce au bon Dieu. Parce que le président était dans une fureur terrible. Bon, il est resté plusieurs années en prison. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais des offres à ce moment-là, dans certains journaux, mais j'ai dit non, ça, c'est trop risqué.
Et vous vous êtes consacré à quoi?
Bon, à survivre.
Oui, survivre comment? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez pour survivre?
Eh bien, en faisant des petits commerces, sans capital, vous voyez que ce n'est pas facile, mais en fait, c'est ce que tout le monde fait dans ce pays, quoi. Et je n'ai repris dans la presse que 14 ans après mon retour ici. Parce que je venais de publier un article dans Jeune Afrique qui avait fait bonne impression sur l'actuel ministre, sur le ministre de l'information de l'époque, qui est sénateur actuellement, M. Ramazani Baya. Et voilà, donc, qui m'a fait venir, il s'est établi un contact, une collaboration qui a duré quelques années.
Mais c'est comme ça que vous avez repris
avec la presse.
Oui, oui, oui. Et c'est à cette occasion que vous avez créé votre journal?
Oui, d'abord, je suis allé pour travailler à l'analyste, comme secrétaire de rédaction. Bon, après l'analyste, j'ai été recruté par le docteur Gaïga, qui avait un journal qui s'appelait Le Volcan. Alors, en 90, à la démocratisation, j'ai décidé de prendre mon envol, j'ai créé Demain le Congo.
Demain le Congo.
Oui.
Voilà, c'était un quotidien qui paraissait à Kinshasa.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il existe toujours, ce quotidien?
Maintenant, c'est-à-dire, maintenant il paraît un peu à l'improviste parce que je ne m'en occupe plus. Et moi, je vis à l'étranger, c'est mon fils qui s'en occupe, mais ce n'est pas une mince affaire que de publier un journal quand on n'en a pas les moyens financiers.
Alors, Albert Kisunga Mazakala, vous étiez aussi familier au président Mobutu. Comment vous êtes rapproché de lui?
C'est-à-dire que moi, mes relations avec Mobutu ont commencé par un incident. Parce que dans une conférence de presse à Goma, on donnait la parole à tout le monde, de façon extrêmement sélective, quoi. Alors, moi j'ai prévenu Lumbala Kapasa, qui était son directeur de presse, à haute voix, j'ai dit, mais si vous ne donnez pas la parole, il va se passer des choses ici. Alors, lui, il a vu que j'étais monté sur mes chevaux. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va passer la parole. Alors, dans la question que je lui avais posée, c'était pas. C'est des questions qu'on ne posait pas au président à l'époque.
C'est quel genre de questions?
Je lui ai dit. Je lui ai demandé d'expliquer à l'opinion pourquoi, malgré les 20 ans de paix que le Congo venait de vivre, nous nous trouvions, sur le plan économique, dans une même position, au même rang que le Tchad. Ça a été le foi total, mais il a été obligé de s'expliquer, quoi. Mais à la fin de la conférence, lui, il est venu vers moi, le président, pour m'expliquer d'apporter sa vision des choses, qui n'était pas très convaincante, évidemment. Et depuis lors, chaque fois qu'il me voyait, bon, il m'appelait par mon nom, il se souvenait de moi, et il voulait entendre mon opinion sur les problèmes du pays. Il y tenait vraiment, parce qu'une fois, à cette occasion-là, toute la presse avait cru que j'avais été arrêté. Bon, je vais vous raconter. Le président avait organisé une conférence avec les journalistes en Célé. On devait être là à 10 heures. Moi, je n'avais pas de voiture. Donc, on a pris le bus, le City Train, vraiment à 1h très matinale, à 7h. Bon, nous arrivons en Célé à la pagode. On constate, et il faisait déjà très chaud, qu'il n'y a pas de climatisation, qu'il n'y a rien à boire, encore moins rien à manger. Bon, ça fait que nous sommes restés à tourner en rond pendant toute une journée en attendant le président. Il arrive seulement à 16h.
Alors que vous étiez là depuis 7h du matin.
Tout à fait. Alors, il entre dans la salle, il constate que c'est impossible, il faisait, je ne sais pas, 50 degrés. Il dit, écoutez, je vous propose d'aller au bateau. Évidemment, pour tout le monde, c'était le soulagement. Mm-hmm. Parce que au bateau, là-bas, c'est climatisé, il y a à boire et à manger. Mm-hmm. Bon. Alors, quand nous arrivons là-bas, évidemment, les gens qui sont restés toute la journée sans rien manger, sans rien boire, moi, je tombe sur une bouteille de bière, je me mets dans un coin que j'avale d'un trait. Bon. Service. Alors, pendant que les effluves d'alcool montaient dans ma tête, j'entends comme une voix lointaine qui m'interpelle. Le président vous cherche, le président vous cherche. Oh, j'ai fini par me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui s'adresse à moi. Donc, je me lève, je vais vers lui. Et il commence à discourir. Je lui dis, je l'interromps, je dis, président, vous avez parlé pendant 25 ans. Maintenant, il est temps pour vous d'écouter.
Vous avez eu ce courage-là, je vais lui dire.
Parce que j'avais un verre en tête. Donc. C'était un silence de mort. Alors, j'ai commencé à débobiner. Il y a un confrère, l'éditeur du Forum des As, qui m'a dit, qui m'a soufflé, moi, à Kikongo, d'arrêter. J'ai arrêté. Manifestement, j'ai vu que le président était soulagé. Mais, quelques temps après, bon, il a demandé à ce que les gens comprennent congé, quoi, qu'il était fatigué d'aller partir. Généralement, bon, on se met en file et on commence à défiler devant lui pour lui dire au revoir. Bon. Quand arrive mon tour, il me prend par le bras et il coupe la file. Il dit au général, il dit, bon, je suis fatigué. Alors, il me prend, il m'amène de l'autre côté du bateau. Devant le fleuve. Moi, je ne sais pas nager. Je me dis, écoutez.
Vous avez eu peur, vous avez dit, c'est fini pour moi, je suis mort.
Non, je me suis dit, ben, écoutez, c'est mon destin. Mais je suis resté d'un calme olympien. Alors, il me pose la question suivante. Est-ce que tu veux me répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure? Bon. Vraiment, avec un parfait self-control, je répète mot pour mot ce que je lui avais dit, le discours que je lui avais tenu. Alors, il reste passif. Et puis, il me dit, mais pourquoi personne ne m'a jamais dit ça? Je dis, président, en tout cas, je n'ai rien inventé. Ce que je vous dis, c'est ce que nous écrivons dans nos journaux. Il dit, ah, si je lisais vos journaux, il y a longtemps qu'il serait mort de crise cardiaque. Alors, j'avais été vraiment sidéré, parce que c'était les choses les plus ordinaires, quoi. Sur la vie des gens, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur les libertés publiques, des choses comme ça. Alors il dit, personne ne m'a jamais dit ça. Donc, nous avons eu, avec le président Mobutu, des relations vraiment suivies. Oui.
Juste... À partir de là, vous êtes devenu très proche.
En tout cas, quand il me voyait, je ne passais pas indifférent à ses yeux. Quand il me voyait, immanquablement, il m'interpellait. Tantôt, il m'appelait Mukongo ya Bukavu. Ou bien les lumobistes.
Mmh. Voilà. Le régime du maréchal tombe, Laurent Désiré Kabila arrive. Avec lui aussi, vous étiez amis, mais parfois vos relations étaient un peu tendues.
Bon, c'est-à-dire, on était copains, on avait eu une partie de parcours ensemble. Dans notre jeunesse, nous avions.
Lui et vous, Laurent Désiré Kabila et vous?
Oui, tout à fait, oui. Parce que. Au début de ce qu'on a appelé la rébellion, que lui, il avait initié, c'est lui qui a été le chef, à l'est là-bas, nous étions à Albertville, lui, il était chef de cabinet au ministère de l'information provinciale. Et moi, j'étais chef de cabinet au ministère de la Santé. Donc, c'est un copain avec qui on se voyait tous les jours. Bon. Mais c'était une personne qui avait un caractère fort. Quand il croyait une idée, si vous voulez avoir la paix, autant y souscrire. Parce que si vous dites le contraire, vous, pour une virgule, vous pouvez discuter pendant des jours. Si vous dites, bon, ok, d'accord, tu as raison, ah, là, ça se calme. Donc, nous avons eu des moments tendus comme ça, là, mais c'était un homme prévenant, chaleureux, amical. Mais qui avait du caractère.
Mmh. Oui. Lorsqu'il était dans le maquis à Fils, vous, déjà, à l'époque, vous annonciez qu'il y avait un mouvement qui s'est préparé à Fils dans vos publications, dans le journal.
Non, ce n'est pas dans cette chronologie-là. Hein. Parce que quand le mouvement a commencé, donc il est parti comme une traînée de poudre qui a surpris tout le monde. C'était une révolte des paysans en réalité. Bon, c'est parti d'Ouvira là, et puis en quelques semaines, arrivé à Kalemi, Kindu, jusqu'à Kisangani, voilà. Quasiment plus de la moitié du pays qui était tombé, mais les mouvements n'étaient pas structurés, et puis la faiblesse idéologique des dirigeants. Et cadre était manifeste, de sorte que bon, il n'a pas fait long feu, évidemment. Quoique, il doit principalement son échec moins, enfin, disons, autant à ses contradictions internes qu'à l'intervention des puissances étrangères, les Américains et les Belges, principalement.
Alors, qu'est-ce que vous avez par contradiction interne?
Les contradictions internes, c'est-à-dire, elles relèvent de la qualité des dirigeants, des objectifs qui sont censés être suivis et de la pratique de gestion. Donc on voyait que bon, le discours ne correspondait pas aux actes et ça a amené évidemment à des scissions, à des tensions, à des divisions et voilà.
Alors, une petite question, hein, on va revenir un peu en arrière. Vous, avec Laurent Désiré, vous dites que vous êtes connu pendant votre jeunesse à Bukavu.
Nous sommes rencontrés, à ma connaissance, pour la première fois à Kisangani, en 61. Mais il y a un ami de notre génération, Germain Mukendi, qui jusqu'à aujourd'hui affirme que, en 1960, je l'ai amené, lui et Laurent Kabila, à l'imprimerie quelque part ici là, qui s'appelait l'imprimerie de l'avenir ou quoi, où on faisait.
Vous ne vous souvenez pas de ça? Donc, non, ça ne vous revient pas.
Vraiment, j'essaie de fouiller dans mon souvenir. C'est une image que je ne vois pas. Mais Germain est absolument formel. Tu nous as amenés, nous sommes allés là-bas, nous avons corrigé les moras. Ensemble, nous sommes restés plusieurs heures, quoi. J'ai cherché, je n'ai jamais retrouvé ça.
Et est-ce que c'est grâce à cette amitié-là que Laurent Désiré Kabila vous a nommé ambassadeur en Belgique?
Ah, certainement, parce qu'il me connaissait. Il a pensé que je pouvais...
Vous qui étiez simple journaliste.
Il a pensé que je pouvais être utile au pays à ce poste-là.
C'était en 99?
Oui, tout à fait, oui.
Vous êtes resté combien d'années?
Je suis resté 3 ans à peu près.
Jusqu'au moment où vous avez été relevé brutalement de vos fonctions par le président Joseph Kabila, qui venait de remplacer, au fait, son père assassiné.
Oui, vous savez, c'était un poste qui était difficile, surtout à cette époque-là, parce que... Du temps de Mobutu, l'ambassadeur en Belgique était un personnage central du pouvoir. C'est quelqu'un avec qui le président parlait au saut du lit. Avant qu'il ne voie quoi que ce soit, il s'informait de l'opinion des Belges, de l'opinion internationale, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui manipulait des fonds importants, qui faisait les achats du président. Donc... On a eu l'impression que c'est le même régime qui continuait, mais en réalité, ce n'était plus ça. Donc, cette fonction-là avait suscité des jalousies incroyables. Il s'est raconté des histoires sur moi, mais tout simplement parce que ben, c'est comme ça.
Alors, on va y revenir, mais avant cela, on va souffler un peu, M. Albert Kisonga. Alors, comment vous passez vos moments de détente?
Je lis, en Belgique, je lis, j'écris. J'interviens beaucoup dans les conférences. J'ai déjà publié 3 livres. Il y a un que j'ai terminé, mais par mégarde, un informaticien a tout effacé.
Waouh!
Hein? Un travail d'une année.
Oh là là.
Qui est parti comme ça là.
Et vos ouvrages portent sur le Congo?
Oui, principalement. Quoique j'ai l'habitude de fonder mes analyses sur la situation de l'homme noir en général. Parce que quand je considère les choses, je constate une très grande similitude entre les pays africains. Quoi. Souvent, j'arrive à la conclusion que ce qui est valable à gauche, l'est à droite aussi, et vice-versa. Quoi.
Vous aimez la musique?
Ah oui.
Quel genre de musique vous écoutez?
Ah, j'aime beaucoup la musique classique d'abord. Oui. Et la musique de chez nous, des années 50, tout ça, ça laissait des empreintes dans mon âme.
La musique des années 50 avec qui, par exemple, Dr Nico?
Oui, par exemple, Nico, surtout le Cabasele. Oui, le Franco. Mm-hmm. Beaucoup plus avant, les d'Olivera qui étaient d'origine angolaise, Jimmy, un centrafricain.
Et qu'est-ce que vous faites plaisir en ce moment?
Je voulais me faire écouter quelque chose.
Oui.
Mais Jimmy, je ne sais pas si vous pouvez avoir ça.
Jimmy qui?
L'autre nom.
Mais ça n'a pas Jimmy.
Si ça n'a pas Jimmy, faites. D'Olivera Freitas.
D'Olivera Freitas. Voilà, on va demander à Eric Sidiakala qui est de l'autre côté de la baie vitrée de nous proposer une chanson d'Olivera pour le plaisir d'Albert Kisonga Mazakala, ex-ambassadeur de RDC en Belgique, éditeur du journal Demain les Congos. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Mama kobota biso, aime kobota bana, dito soke bola eme ki biso sa e kaka na mboka. boma chéri na kokoma na boma bezoza kibola ebeti kristo sai kaka na mboka
et se livre à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Kisonga Manzakala, Manzakala, voilà, éditeur journal du journal de Mali Congo et ancien ambassadeur de la RDC en Belgique, et celui que nous vous présentons aujourd'hui. En 1999, vous êtes nommé ambassadeur de la RDC en Belgique. 3 ans après, vous êtes relevé de vos fonctions. Du coup, vous avez changé d'attitude vis-à-vis du pouvoir de Kinshasa. Vous avez commencé à écrire des articles pour critiquer la gestion du pays par le président Joseph Kabila.
Moi, ce n'est pas la grille de lecture que j'ai des événements, évidemment. Laissons les autres juges, comme on dit, mais sinon, généralement, je suis quelqu'un habitué à voir les choses d'une façon critique. Même avant d'être nommé ambassadeur, quand j'ai dirigé effectivement le journal, parce que je ne suis plus dans le journal maintenant. Depuis 2009, justement, je ne suis plus dans le journal. Mais à l'époque, là, mes articles étaient considérés par certains proches du pouvoir comme appartenant à l'opposition. Ce qui n'était vraiment pas vrai, qui était tout à fait contraire à la réalité. Mais quand les gens sont habitués à la pensée unique, la moindre petite critique apparaît comme inacceptable, quoi. Mais sinon, je n'ai jamais considéré que je faisais partie de l'opposition, jamais. Mais c'est vrai que quand j'analyse des faits, j'arrive à avoir une perception qui n'est pas celle des dirigeants.
Lorsqu'on vous a fait partir de l'ambassade, il faut le dire, vous étiez mécontent. Vous avez été quand même très dur envers le pouvoir. Vous avez accusé certaines personnes d'être jalouses parce que vous étiez ambassadeur dans une de vos publications, monsieur Manzakala.
Évidemment, j'écris beaucoup, c'est vrai. Mais je veux vous dire que dans les propos que vous tenez, il y a les pour et les contre. Parce que sur certains plans, je vous assure, ça a été dur pour moi de partir de l'ambassade sans un sou, avec trois petits bébés, parce que l'hiver qui suivait, je l'ai passé au froid, sans chauffage, parce qu'il ne m'avait pas été payé un seul sou. Mais quelque part, c'était pour moi, je vous parle très sincèrement, un soulagement. Parce que vous ne pouvez pas être ambassadeur si vous n'avez pas une parfaite connexion avec les autorités. À plus forte raison que me concernant, quand j'ai été nommé, les Belges ont eu l'impression qu'il y aurait un renouveau dans les relations entre les deux pays. Pourquoi? Parce que mon accréditation ayant traîné, le chef d'État avait appelé le premier ministre belge pour lui dire, je comprends pas, je vous envoie un ami personnel. Et pourquoi ça traîne? Donc, pour eux, ils ont...
On parle de Laurent Désiré Kabila.
Tout à fait, oui. Ils ont dit, ben écoutez, donc les relations partent d'un bon pied. Et je vous assure que j'avais été bien accueilli en Belgique. Mais c'était un malentendu, quoi. Chez nous, rien n'est très facile. Il faut être du sérail, donc avoir un accès direct au chef. Si vous ne l'avez pas, parfois, vous vous trouvez dans des situations d'humiliation. Où ce sont les étrangers qui vous informent de vos propres réalités, des événements qui se produisent ici dont vous n'êtes pas au courant. On vous dit, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé hier, ça et ça. Mais...
Le contact n'était pas facile, en fait, avec
le pouvoir.
Le pouvoir.
Oui, oui. Mm-hmm. Oui. Parce que, bon, aux affaires étrangères, par exemple, il y avait de nouveaux ministres sans expérience. Il y a même un qui restait plus d'un an sans cabinet. Donc vous voyez, quand le ministre reste sans cabinet, le courrier n'est pas lu, vous adressez des rapports qui ne rencontrent aucune réaction. Et donc, vrai, dans ces conditions-là, c'est...
Alors, vous avez décidé, c'était à la fois un soulagement, mais aussi...
Une déception. Oui, tout à fait, c'est humain, oui.
Ben, lorsque vous avez été l'ambassade, vous avez décidé de vous installer en Belgique, de ne pas revenir. Certaines personnes disent que c'est parce que vous écriviez, vous faisiez des publications très sévères
à l'endroit du pouvoir,
que vous aviez eu peur de revenir au pays.
Pas du tout, ce n'est pas exact. J'ai attendu que le gouvernement me rapatrie. J'ai attendu pendant un an qu'on m'envoie les billets, puis vous n'allez pas revenir à pied quand même de la Belgique. Ça ne s'est jamais produit. C'est pourquoi, un an après, j'ai dû devenir exilé, donc demander l'asile pour pouvoir bénéficier de l'assistance du gouvernement belge. Sinon, j'aurais fait comment avec 11 enfants, 11 personnes à charge.
Pour un ambassadeur, c'est quand même un peu désolant.
Oh, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent tous les jours, malheureusement.
Et donc, pour le moment, vous êtes en Belgique. Vous êtes allé en Belgique. Vous êtes venu faire quoi à Kinshasa?
Mais c'est chez moi, quand même.
Vous avez pu quand même trouver les moyens, l'argent pour vous acheter un billet et revenir chez vous?
Oui, mais écoutez, j'ai des enfants qui travaillent maintenant. Donc, ma situation n'est pas aussi désespérée qu'elle était il y a 10 ans. Donc, trouver un billet maintenant, ce n'est pas aussi difficile que par le passé, quoi.
Alors, Albert Kisonga, comment vous jugez la liberté d'expression au Congo actuellement?
Je dois vous dire que le visiteur qui arrive ici est agréablement surpris de voir la vivacité qu'il y a dans l'expression des acteurs politiques et particulièrement des journalistes. Parce que quand je suis de débat à la télévision, mais c'est surréaliste. On se croirait être en France ou en Belgique.
Il y a quelques années, ça ne pouvait pas faire.
Non, c'était vraiment plus difficile. Donc, sur ce plan-là, franchement, il y a même un média appartenant à un prisonnier politique qui est toujours en activité et qui attire beaucoup d'intervenants. Hein, je venais de suivre encore hier une émission... Une tranche qui s'appelle Kiosque. Oh, quelle richesse d'échange! Ah, j'étais vraiment surpris.
Oui, oui.
Donc, sur ce plan-là, le pays a marqué quand même certaines avancées. Quoi.
Alors aujourd'hui, le pays connaît une crise politique. Les élections qui étaient prévues pour cette année ne seront pas organisées. Et il y a un dialogue politique qui se tient, un dialogue où une frange de l'opposition est absente. Comment vous analysez-vous toute cette situation politique?
La meilleure hypothèse serait évidemment que tout le monde soit ensemble pour réfléchir et décider sur la conduite à tenir. Ce serait la meilleure hypothèse. Il y a des situations où de telles hypothèses ne se vérifient pas. Et c'est dommage, mais il est absolument indispensable que les gens puissent réfléchir à des solutions. Donc vous ne pouvez pas dire, bon, écoutez, parce que nous ne sommes pas d'accord, nous on croise les bras. Et on laisse la situation continuer à pourrir. Non, c'est irresponsable. Il faut que les gens puissent se parler, se rencontrer et essayer autant que faire se peut mettre l'intérêt général au centre des débats. Parce que c'est le pays d'abord. Il ne faut pas arriver à des solutions susceptibles de mettre la vie du pays en danger. Ce que j'ai toujours craint, c'est cela. Tout changement brutal peut amener à des réactions de foule dans telle ou telle direction, susceptibles de devenir absolument incontrôlables. Ces histoires-là, on sait où ça commence, mais on ne sait pas comment ça évolue et où ça finit. Donc, je crois que le Congo a tout intérêt à faire l'économie de tels scénarios.
C'était un plaisir, M. Albert Kisonga, de vous recevoir dans cette émission. J'avais un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent.
Ben, je les remercie beaucoup d'avoir passé leur temps à m'écouter. Et vous, particulièrement, je vous félicite parce que vous êtes en train de contribuer d'une façon significative à la liberté d'expression dans notre pays.
Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Albert Kisonga Mazakala, éditeur du journal de Mali Congo et ancien ambassadeur de la RDC en Belgique. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son, au micro qui est écouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiorepi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.